Victor Hugo, c'est un grand écrivain, c'est un grand dessinateur, et on sait moins que c'est aussi un grand décorateur.
Se mêle de la spiritualité, se mêle évidemment de sentiments esthétiques, quelque chose de romantique, enfin quelque chose de multiforme.
Se sent militant de montrer l'âge d'or ou les âges d'or de cette civilisation islamique.
J'ai bien aimé l'histoire et j'aime bien les châteaux, les murs et les fresques.
Il y a beaucoup de culture.
Oui, c'est ma première visite, c'était très bien.
Va mon ami, va, la lune se lève.
Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Art Interview sur Art District. C'est Julie Chaise-Martin et comme à chaque fois dans cette émission, je pars à la rencontre de ceux qui font l'actualité culturelle. Conservateurs, artistes, mécènes, passionnés et amateurs, ils nous parlent tous de leurs événements, leurs expositions et leurs émotions. Bonjour à tous et bienvenue dans Art Interview sur Art District. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir deux artisans de la revue Hobbies, Lambert Stroh, directeur de la publication, et Grégoire Bellost, rédacteur en chef. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. On va parler donc de votre revue Hobbies. C'est une revue entièrement consacrée aux loisirs, hein, comme son nom l'indique. Une revue semestrielle dont j'ai en main le cinquième numéro qui est sorti fin 2017.
En novembre
2017, voilà. Donc j'ai parcouru avec grand plaisir les pages de cette revue, d'autant plus que j'ai appris des choses. Alors, c'est un petit peu bateau de dire ça, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on lit énormément de choses. Moi, j'en lis plein sur les réseaux sociaux, j'imagine que vous aussi, même dans la presse en général. Mais ce qu'on apprend en général est inversement proportionnel au nombre de choses qu'on lit. Donc, c'est quand même assez réjouissant d'avoir une revue aussi avec des articles de fond, des reportages, de la photographie et surtout des articles finalement qui nous racontent des histoires. Et comme tout le monde a des loisirs dans sa vie, un ou plusieurs, on est plus ou moins fidèle à un loisir, il y en a qui changent, il y en a qui restent fidèles à un loisir toute leur vie, donc j'imagine effectivement que ça fait beaucoup de sujets à traiter. Comment justement vous choisissez les sujets? Comment vous vous concertez? Qu'est-ce qui vous attire?
Je crois qu'on travaille pas mal au feeling à l'instant. J'ai souvent des idées improbables. Greg, tu veux pas qu'on essaye la pêche aux silures, des choses comme ça? Et Grégoire me répond toujours la même chose. Essaye de trouver un sujet humain, essaye de faire du journalisme, de raconter des belles histoires. Je crois qu'on bosse en binôme où j'arrive avec des idées un peu improbables et Grégoire les éditorialise, les canalise dans un exercice journalistique, le reportage, le portrait.
Ouais, alors le reportage, beaucoup, effectivement, des articles de fond. Et ce qui est super, c'est qu'on voilà, on va à la rencontre de gens. Mais pourquoi le loisir, c'est d'où vient cette idée de créer une revue entièrement consacrée au passe-temps?
L'idée première, je sais pas d'où elle vient, c'est un long cheminement, je crois que j'ai toujours une fascination pour ces adultes qui ont des passions d'enfants. Quand on est petit et qu'on voit son grand-père collectionner des petits avions ou des voitures, on est passionné, on se dit c'est dingue, j'ai 5 ans, je joue avec des avions, mais papy aussi. Toi, il y a une fascination un peu comme ça, et ça m'est resté.
Alors je pense aussi que les hobbies, en fait, les passions sont un moyen de, voilà, de parler de la société, c'est un prisme un peu pour raconter la société, et c'est quelque chose qui traverse les âges. Voilà, comme Lambert a expliqué, ça traverse peut-être les classes sociales, les régions de France. Il n'y a pas au final tant de sujets que ça qui sont aussi qui concernent autant de gens. Donc c'est aussi une manière de parler des gens, de parler de la société qui nous entoure.
Effectivement, chaque hobby se dit quelque chose aussi sur un pays, une communauté,
une personne, un pays,
type
une
d'âge,
communauté, exactement.
Une tranche d'âge. Donc vous choisissez aussi les sujets peut-être pour que tout ce que vous racontez, tous vos articles s'adressent autant à des personnes âgées qu'à des adolescents.
Exactement. Donc comme
ça s'adresse à tout le monde, quoi, je veux dire, Hobbies, la revue.
Ouais, et on essaie de faire en sorte dans le chemin de fer que dans un seul numéro, on ait parlé à la fois de la petite enfance, de l'adolescence, d'adultes d'âge moyen, on va dire, et du troisième âge. On essaie vraiment de faire en sorte que tous les sujets forment un tout, une vraie diversité.
Alors en tout cas, moi, dans le cinquième numéro, là, que j'ai parcouru un peu plus en détail, j'ai ressenti, vous allez me dire si c'est normal ou pas du tout, une certaine nostalgie, c'est-à-dire qu'il y a quand même un retour vers le passé. Il y a aussi la volonté, je pense, pour vous, en tant que journaliste, de raconter aussi ce qui se passait avant. Par exemple, on a des exemples de loisirs qui se passaient au XVIIIe siècle, comme le lancer de renard. Hein, donc ça, voilà, vous pouvez découvrir ça dans le cinquième numéro. Mais il y a aussi des témoignages de personnes qui se rappellent justement quand ils étaient jeunes. Par exemple, il y en a un qui allait au caveau des Oubliettes. Et aujourd'hui, le caveau des Oubliettes, si on passe devant, aujourd'hui, justement, j'y suis passée devant il y a pas très longtemps.
Il a fermé.
On voit qu'il a fermé, le bail est accédé. Et là, ça fait actionner, en fait, la machine à remonter le temps.
Mais alors ça, je pense que c'est une erreur de notre part, si tu l'as ressenti. On n'a pas calculé de nostalgie, on travaille pas sur la nostalgie. C'est qu'on a mal calibré notre magazine, parce que...
non, pas du tout.
Ou ce numéro-là, mais non, parce que si on pouvait faire des numéros sur des hobbies futurs, sur qu'ils soient technologiques ou non, peut-être un nouveau moyen de locomotion, comme les Segway ou un truc... à base d'ordinateurs et de logiciels, on le ferait. C'est simplement qu'on n'a peut-être pas trouvé, en faisant ce numéro 5, de bons sujets, mais on cherche pas exactement à s'enfoncer dans la nostalgie, non, et dans le passé, et dans les hobbies passés. C'est pas une volonté, en tout cas.
En tout cas, c'est pas vraiment ce que je... C'est pas tout le magazine hein, qui est là-dessus. Je voulais pas du tout fausser le ressenti que les auditeurs pourraient en avoir, mais ce que je trouve, moi, très intéressant, c'est que, justement, on navigue entre tradition et contemporain, finalement. Donc aujourd'hui, il y a aussi les nouvelles tendances hein, dans votre magazine. On peut en parler justement maintenant. Par exemple, le lancer de hache. Vous avez fait un article dessus, on en a beaucoup entendu parler. Alors le lancer de hache, c'est incroyable que ce hobby soit devenu aussi populaire. On se demande vraiment comment c'est possible.
Bah, en fait, on l'a fait, celui-ci, à Toronto. À peu près, voilà, ces derniers mois, en fait, le phénomène s'implante en France aussi. Mais nous, on a décidé de revenir, entre guillemets, aux racines voilà, du mouvement. Donc, c'est à Toronto. Et c'est, voilà, des gens qui écoutent du rock, qui boivent des bières. Voilà, le vendredi soir, après le boulot, ils vont lancer des haches à deux mains sur une cible. C'est une manière un peu de se détendre pour eux. Et voilà, il y a... C'est assez drôle parce que il y a un peu un retour de leur part
du traditionnel.
Au Moyen-Âge, voilà, c'est le boss, un peu le fondateur là qu'on a interviewé, c'était un fan de Conan le Barbare, ou Conan le Barbare, je sais pas comment on prononce. Mm-hmm. Et voilà, c'est assez drôle. Après, je pense que c'est une manière pour les gens peut-être de se détendre, ça dit peut-être des choses à ce niveau-là.
C'est masculin plutôt.
Fait, on a vu autant de femmes que d'hommes dans ce lieu qui était à Toronto. Il y a même des gens qui venaient en couple depuis longtemps. Voilà.
Est-ce que Grégoire Bellos, vous direz que ce lancer de hache, c'est un des loisirs les plus farfelus ou les plus improbables que vous ayez rencontré dans vos enquêtes, dans vos reportages?
Il est assez farfelu, en effet. On en a fait d'autres un peu du même acabit.
Mais je suis pas sûr que l'improbable et l'insolite soient une échelle de mesure pour nous. En tout cas, on n'essaie pas d'être systématiquement insolite dans tous les articles. C'est vrai qu'on l'est de temps en temps parce que c'est drôle, ce serait dommage de passer à côté.
Oui, il y a toujours un ou deux insolites, on va dire. Voilà.
On boude pas notre plaisir, mais c'est pas le but premier.
Peut-être l'exemple de la pêche à la silure, c'est ça, si je ne me trompe pas?
Oui, la pêche aux silures.
Oui, la pêche aux silures, pardon. C'est quoi ça exactement? Ça se passe où?
Ça se passe... En fait, le silure, c'est le plus gros poisson d'eau douce. Mais c'est aussi le plus commun, c'est-à-dire qu'on peut le trouver à peu près dans tous les fleuves de France. Donc on peut le pêcher à peu près dans tous les fleuves de France aussi. Nous, c'était en Loire que notre journaliste et notre photographe sont allés enquêter.
Les jeunes, les plus âgés... s'y adonne.
Exactement, en fait, donc encore une fois, je suis arrivé avec cette idée de « Ah, j'adorerais qu'on enquête sur la pêche au plus grand poisson d'eau douce de France. » Et Grégoire et Victor Brancard, notre journaliste, m'ont dit « Oui, c'est bien, mais sans un bon casting, ça marche pas. » Et donc, ils ont réussi à trouver une bande de trois jeunes qui ont 19, 20 et 21 ans et qui s'adonnent à la pêche aux silures. Et c'était vraiment bien de, à travers ces personnages, voir comment la pêche se passe de père en fils et comment les plus jeunes se l'approprient. Voilà, par exemple, ils pêchent avec ils utilisent plusieurs applications d'iPhone ou de smartphone pour pêcher. Et on voulait voir comment on pêche en France en 2018 et comment ça pouvait être différent de la pêche il y a 5, 10, 15 ou 20 ans.
Oui, ce qui est intéressant aussi, c'est de dire que voilà, les hobbies se transmettent de génération en génération, s'adaptent,
se modernisent,
s'adaptent à la société. Donc ça, c'est aussi montrer l'évolution de ces loisirs.
Ouais. Et ces jeunes pêcheurs, pour illustrer le propos, nous ont confié une phrase assez géniale. Ils disent, voilà, il y a 5 ou 10 ans, quand mon père chassait une silure, s'il ne ramenait pas la bête mort aux copains, il ne pouvait pas prouver qu'il l'avait vraiment pêchée. Aujourd'hui, nous, on n'a plus qu'à prendre une photo sur notre smartphone et montrer aux copains, et voilà, on a la preuve par l'image. Donc c'est assez dingue, il nous disait. Je pense que le smartphone a sauvé des millions de poissons depuis des années, quoi. Ouais, j'ai trouvé la phrase géniale.
On va faire une première petite pause musicale, puisqu'on vient de parler de pêche, de poissons. Vous vouliez faire tous les deux un petit clin d'œil à France Gall.
Il nous a quitté récemment.
Ouais.
Ouais, et bah écoute, on se propose d'écouter Bébé Requin.
Voilà, donc on écoute Bébé Requin, on se retrouve tout de suite après.
Que tu le saches avec amour, avec douceur. Moi, joli bébé requin, je vais te dévorer le cœur.
Bébé requin, bébé velours, bébé requin, bébé diamant. Bébé requin, bébé velours, bébé requin, bébé diamant.
Viens jouer, jouer à saute mouton sur les vagues. Je vais descendre dans un ciel de sable.
Je suis un bébé requin, au ventre blanc, au dents nacrées.
Dans les eaux chaudes, je t'entraînerai, et sans que tu le saches, avec amour, avec douceur. Moi, joli bébé requin, je vais te dévorer le cœur.
Bébé requin, bébé velours, bébé requin, bébé d'amour. Bébé requin, bébé velours, bébé requin, bébé d'amour.
Pour te garder, moi je me battrai contre mes sœurs. Je veux être la seule à te manger le cœur.
Retour dans l'émission Art Interview avec Lambert Stroh et Grégoire Bellost, rédacteur en chef et directeur de la publication de la revue Hobbies. On parle avec vous en ce moment donc de cette revue, du contenu et surtout de voilà, qu'est-ce que le loisir, qu'est-ce que ça signifie dans notre société, qui ça donne au loisir, tout le monde, d'après ce que vous nous avez dit. Et le loisir a aussi une dimension politique évidente. Vous traitez un petit peu de ça dans vos pages, notamment un article que j'ai trouvé assez intéressant qui revient sur un ministère du temps libre qui n'a duré que quelques mois sous Mitterrand et une idée en fait qui a été reprise assez très récemment en 2017 par Benoît Hamon pour faire campagne. Le ministère du temps libre, ça rappelle évidemment les congés payés du Front populaire, ça rappelle que moins on travaille, plus on a de temps libre pour ses loisirs. C'est aussi finalement parler de la place du loisir dans la vie quotidienne des gens, qui est beaucoup plus grande aujourd'hui qu'autrefois. Autrefois, c'était peut-être un luxe d'avoir des loisirs. Ça aussi, c'est des problématiques que vous traitez dans Hobbies et cette dimension politique.
Ça nous intéresse, on essaye d'en parler à peu près à chaque numéro. Voilà, il y a en effet cet article dans le dernier numéro qui revient sur l'aventure un peu du ministère du temps libre et sur le temps libéré, en fait, cette volonté politique qu'il y a eu de laisser plus de temps aux Français pour que, voilà, ils puissent s'adonner à des passions. Voilà, il y avait un slogan notamment « Sportez-vous bien » qui nous a fait bien rire, et en même temps c'est une belle aventure. Et aussi on a notamment interviewé dans un précédent numéro Jean-Marc Ferry, qui est un penseur qui a beaucoup réfléchi sur la question du revenu universel, etc., et donc du temps que ça peut libérer pour les individus.
Alors le temps libre, le loisir, est-ce que aussi ça amène à une certaine paix sociale? Parce qu'on voit aussi qu'à travers vos articles, vous parlez beaucoup effectivement donc de tous ces loisirs qui nous entourent aujourd'hui, dans cette société de consommation aussi dans laquelle on est. Mais le loisir, c'est aussi l'ancrage dans un territoire, c'est-à-dire que chaque région a ses traditions, ses fêtes, ses événements, ses manifestations. On pense par exemple à la Grande Braderie de Lille, où vous êtes allé faire un reportage, Grégoire Bellost, qui existe depuis des années. Là aussi, c'est générationnel, hein, comme on le disait au début de l'émission. Mais c'est aussi, voilà, on se rassemble, on se côtoie, on vit ensemble. On a cette volonté aussi de vivre en communauté de manière paisible grâce à ces grandes manifestations.
Ouais, non, c'est sûr que les hobbies sont plus tendance à rapprocher les gens qu'à les diviser. Ouais, sur le côté géographique des régions, on essaye, on est assez friand parfois de presse quotidienne régionale, donc on va un peu regarder, trouver dans des coins de France, qui sont pas toujours traités autant qu'il le faudrait par les médias. On essaye de regarder, d'aller sur place, faire du reportage.
Et ça, c'est ce que j'ai trouvé intéressant d'ailleurs, moi, personnellement, c'est qu'effectivement, on apprend beaucoup de choses, comme je le disais au début, sur des thématiques qu'on trouve très peu traitées dans d'autres revues et magazines en général. Je vous fais un compliment, là.
Merci beaucoup. Mais on n'aime pas traiter des sujets qu'on voit partout ailleurs, quoi. Mm. On a notre petite fierté, on aime bien dénicher dans la PQR ou ailleurs des idées ou des personnages et les traiter de manière originale.
Et l'idée aussi, comme vous me disiez, Lambert-Stro, c'est de mettre en valeur des jeunes talents dans votre magazine à travers tous ces sujets, autant photographes que rédacteurs. Moi, j'ai beaucoup apprécié le style, en tout cas des articles, parce que je trouvais vraiment que c'était très bien raconté. Voilà, on est dans une presse écrite, une vraie presse écrite. Et c'est super parce qu'on revient à une sorte de contenu de presse écrite un peu traditionnelle qui s'était un peu perdu, je crois.
Ouais, c'est vrai qu'on essaie de travailler avec des jeunes, enfin des gens de notre âge. On va dire que la rédaction, elle a entre 25 et 30 ans, et que ce soit sur les textes, que ce soit sur les photos, on produit toutes les photos nous-mêmes, que ce soit aussi sur les illustrations, la BD, etc. Voilà.
Donc c'est vous faites appel en fait à différents talents. Comment ça, c'est une équipe que vous avez régulière ou c'est un petit peu à chaque fois des gens différents?
Un peu les deux. Il y a quelques personnes qui nous suivent depuis le numéro 1, 2 ou 3. Et à chaque numéro, on essaye de faire entrer des nouveaux photographes, des nouveaux illustrateurs, des nouveaux journalistes.
Ouais, donc par exemple, il y a un reportage là par un jeune photographe sur une fête religieuse en Sicile. Alors parce que
Pazoumian, ouais.
Voilà, donc Alexis Pazoumian est allé faire des photos. Hobbies n'est pas qu'en France. Hobbies va un petit peu à l'étranger, donc ça c'est bien. On parlait de
Toronto.
De Toronto, voilà, tout à fait. Donc là en Sicile. Alors est-ce qu'une fête religieuse c'est vraiment un hobbies? On peut vraiment mettre ça dans la case hobbies?
Ouais, on a un peu, on n'a pas triché, je pense, mais on a joué avec la notion de hobby, avec la notion de temps libre, et il se trouve que en Sicile, pendant des heures, des jours, voire des semaines, ce village prépare sa fête. Donc on s'est dit que si le soir et leur week-end ils préparaient une statue ou peut-être de la nourriture ou peut-être une tenue ou peut-être que la fanfare, ce qui est le cas d'ailleurs, révisait ses classiques avant le jour J, eh bien peut-être que ça faisait partie du temps libre.
Alors Hobbies, ça se veut être une belle revue, C'est semestriel, hein, c'est ça. Où est-ce qu'on la trouve ?
En librairie, dans un réseau de librairies à travers le France, un peu en Belgique, un peu en Suisse, et selon les numéros, on peut être demandé au Canada, on peut être demandé à New York, on l'a été en Italie, au Portugal. Donc tous les libraires de France sont susceptibles de vendre billes, de prendre votre commande si vous leur demandez, et voilà.
Est-ce que vous avez des gens qui connaissent la revue et qui vous écrivent et qui vous disent « Ah moi, mon hobby c'est ça, est-ce que vous pouvez en parler ?» ça arrive ?
Ça arrive assez souvent. Ça et beaucoup de photographes qui aiment bien, je crois, notre mise en page, celle de Louise de Montalembert, qu'on salue, qui est la troisième comparse, et qui nous disent « Ah, j'adorerais collaborer, voici un portfolio où peut-on se rencontrer et discuter, voir ce qu'on peut faire ensemble. »
Il y a aussi sur les sujets, beaucoup de journalistes, voilà, par exemple, un de nos journalistes à sa famille à Rouen qui va nous dire « Voilà, depuis que je suis tout petit, je vois cet événement chaque année, les 24 heures motonautiques de Rouen. » Ouais, il y a beaucoup de gens qui se rappellent en fait que depuis qu'ils sont tout jeunes, il y a des événements locaux assez fous qui se produisent à côté de chez eux et qui nous mettent sur le coup.
Alors, et vous, alors, Lambert et Grégoire, c'est quoi vos hobbies, du coup? Est-ce que sur votre CV, là, dans la petite case en bas qu'on a tous remplie un jour en se disant « Qu'est-ce que je vais mettre comme loisir dans cette case ?» Parce que aussi, il faut dire que dans un entretien d'embauche ou quand on a un rendez-vous professionnel, on se rend compte souvent que les loisirs et les hobbies rapprochent d'une manière étonnante et que parfois, on est embauché ou bien on signe un contrat parce qu'on a des affinités totalement extérieures au monde professionnel et que peut-être qu'on est passionné de golf.
Et l'employeur aussi.
L'employeur aussi, voilà. Ouais. Donc ça, c'est quand même symptomatique, je trouve, de l'importance du hobby et qui est en fait le reflet d'une personnalité. C'est ça aussi.
Et du fait que ça rapproche aussi les gens.
Ouais, il y a un sujet de conversation qui émerge.
Qui se lance. Ouais. Après, qu'est-ce que...
Alors vous deux, justement.
Ouais, qu'est-ce que c'est ta passion, Grégoire ?
On n'a pas des hobbies fous. Moi, j'ai déjà dit notamment que... J'aimais écouter du rap français, voilà, je suis assez fan de ça, mais c'est pas très original.
Et Lambert, Stroh
C'est par période, on va dire qu'en ce moment c'est la bande dessinée, j'en lis beaucoup, j'en achète beaucoup, je vais à Angoulême, au festival.
D'accord.
On va dire ça.
Alors justement, de la bande dessinée, on peut en retrouver quelques pages dans la revue.
Bien vu.
Au sujet de la musique, Grégoire, vous parlez du rap. On a un sujet par contre sur le hard rock metal, c'est ça ?
Sur le hard rock français, ouais. Sur comment la France, qui est un pays qui a peu... On dit qu'elle a peu de tradition rock, qu'elle ne sait pas faire. Pourtant, dans les années 70 et 80, il y a eu des fans de metal. On a voulu raconter un petit peu leur histoire.
Il y a aussi le côté, c'était aussi une musique qui pouvait être pratiquée dans les cités HLM avant que le rap déferle justement sur la France. C'était parfois la musique qui était écoutée dans ces quartiers-là. Et en plus, une fois encore, on revient sur l'aspect visuel, ils sont parfois déguisés, ils vont puiser leurs références dans le Moyen-Âge, il y a des satanistes, enfin c'est un monde assez, assez fou.
Ouais, là encore où on peut raconter des histoires aussi bien par l'écrit que par la photographie, ce que vous savez très bien faire dans cette revue. Alors en parlant de hard rock, on va se quitter justement en écoutant un morceau d'un groupe que vous avez choisi qui s'appelle Satan Joker, c'est ça ?
Exactement.
Voilà, donc on va se quitter en écoutant ce morceau. Peut-être un petit mot dessus juste... pour nous expliquer ce choix.
C'est un des morceaux préférés en fait de l'auteur de l'article. C'est assez. Je pense qu'il décrit bien ce morceau, ce à quoi pouvait ressembler le hard rock de l'époque.
Donc on va écouter ça et puis moi je voulais juste, pour se quitter quand même sur cette conversation autour du loisir et de votre revue, Lambert Stroh et Grégoire Bellost, citer une phrase de Pascal, parce que bon, moi dès que j'ai vu votre revue, c'est mon côté un peu intello peut-être, mais enfin bon, j'ai pensé à Pascal, le philosophe du 17e siècle, qui dit cette phrase célèbre: tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre. Donc lui était contre le divertissement, ça vous plaît pas trop ça, j'imagine.
On avait étudié cette phrase dans un numéro précédent, elle nous fait beaucoup rire. Il a pas tort.
Il a pas tort finalement, c'est-à-dire que au crépuscule de notre vie, on se rend compte que Pascal a raison peut-être.
Ouais, peut-être, je sais pas.
Bon, en tout cas, un bon bouquin, finalement, dans son canapé ou dans son lit, c'est un super loisir aussi. Hein. Dans sa chambre,
oui,
dit Pascal.
Oui, pas besoin de faire compliqué, pas besoin de faire solide parfois.
Voilà, parfois on peut tout à fait être heureux avec un loisir très simple. Merci à vous deux, donc
c'est
Lambert,
nous qui te
directeur de la publication de Hobbies, et Grégoire Bellos.
Merci beaucoup.
Rédacteur en chef, j'étais ravie de vous recevoir dans cette émission. À interview sur Art District et revenez quand vous voulez.
Merci
pour le prochain numéro.
Merci beaucoup d'avoir écouté Art Interview sur Art District. C'était Julie Chaise-Martin et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous avec un acteur du monde culturel. Très bonne journée sur Art District. Avec nous, tes idoles.